Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Jessica Baudet.
Bonjour à tous. Évoquer la laïcité française, c'est parler du mouvement de sécularisation progressif qui s'amorce dans notre pays dès le Moyen-Âge pour donner lieu à des débats passionnés sous la Révolution française. Dès lors, les références religieuses sont bannies pour laisser place au culte de la déesse raison, mais le concordat de 1801 signé par Napoléon relance de plus belle la guerre idéologique qui oppose républicains et catholiques tout au long du 19e siècle. Finalement, après bien des atermoiements, c'est le principe de laïcité qui l'emporte avec la promulgation de la loi 1905. Pour la première fois dans l'histoire de France, les églises et l'État sont séparés, un principe dont nous célébrons cette année le centenaire, mais l'actualité nous rappelle à quel point la laïcité en France est loin d'être acquise, ne serait-ce qu'à l'école. Aujourd'hui, c'est donc sur cette fabuleuse histoire de la loi 1905 que je vous propose de revenir aujourd'hui dans Éclairage en compagnie de Jacqueline Lalouette. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour Jessica Baudet, merci de votre invitation.
Je vous en prie, vous êtes professeure d'histoire contemporaine à l'université de Paris 13.
Oui.
Et spécialiste des questions politiques et religieuses de la France au XIXe siècle. Vous avez par ailleurs participé à un colloque sur le centenaire de cette loi, organisé par l'Académie des sciences morales et politiques les 22 et 23 février dernier. Et vous venez de publier ce mois-ci un livre passionnant sur le sujet, « La séparation des églises et de l'État », publié aux éditions du Seuil.
Je précise que c'est « Genèse et développement d'une idée, 1789-1905 ». Donc c'est moins la loi elle-même que la naissance de l'idée de séparation et son cheminement tout au long du siècle.
Vous faites bien de le préciser.
Voilà.
Alors, le mouvement de sécularisation qui aboutira à la loi de 1905 est lent et progressif, mais une chose est sûre, c'est qu'il est commun à plusieurs États d'Europe dès la fin du Moyen-Âge. Comment se manifeste-t-il, Jacqueline Lalouette?
Je pense qu'on peut dire que ce mouvement que vous appelez de sécularisation, bon, il y a une certaine ambiguïté autour du terme sécularisation que les historiens ont tendance à utiliser différemment aujourd'hui, mais vous faites allusion, je pense, au conflit entre le pouvoir pontifical et les différents États, notamment la France et le Saint-Empire romain germanique. Et donc, on pourrait évoquer, bien avant la fin du Moyen-Âge, le conflit entre l'empereur Henri IV et le pape Grégoire VII, avec la célèbre affaire de Canossa. Ensuite, toujours dans le cadre du Saint-Empire romain germanique, un conflit entre l'empereur Frédéric II et le pape Innocent IV. Et puis, du côté de la France, bien sûr, on songera à la lutte entre Philippe le Bel et le pape Boniface VIII à l'extrême fin du XIIIe siècle et tout début du XIVe siècle. Voilà.
En tout cas, la France se trouve à l'avant-garde de ce mouvement, comme en témoigne la Révolution française. En quoi, justement, cette révolution marque-t-elle un tournant décisif dans l'histoire de la laïcité française, Jacqueline Lalouette?
Alors, les affaires de la Révolution sont compliquées pour la religion comme pour tout le reste. Tout d'abord, il y a, mais ceci n'intéresse pas la loi de ni le Concordat, ni ultérieurement donc la loi de séparation, il y a tout d'abord des décrets de 1790 et 1792 qui suppriment les congrégations religieuses, les ordres religieux. Mais bon, je vous dis, le Concordat ignora ensuite les congrégations, la loi de séparation les ignorera également. Et l'affaire sera réglée, nous aurons peut-être l'occasion d'en parler, par les lois de 1901 et de 1904. Puis il y a la constitution civile du clergé qui oblige, alors que par ailleurs les biens de l'Église ont été nationalisés, la constitution civile du clergé fait des prêtres véritablement un corps de l'État et oblige les prêtres à prêter un serment. chose que n'acceptera pas le pape, d'où la condamnation de cette constitution civile du clergé et le partage du clergé français entre jureurs et insermentés, ou entre jureurs et réfractaires, ce qui sera un grand drame, une forme de divorce au sein du corps ecclésiastique, au sein de l'Église. Puis, il y a bien sûr, durant la Révolution, le grand mouvement de déchristianisation qui se met en place durant l'an 2, fin 93, fin 94, avec le culte de la déesse raison. On a vu également antérieurement un culte rendu aux martyrs de la liberté, et puis il y a le culte de la patrie, et après le culte de la déesse raison, il y aura celui de l'être suprême. Alors, puisque je crois que vous voulez parler beaucoup de laïcité et de séparation, on a peut-être guère le temps de s'apesantir sur ces différents cultes dont, par ailleurs, je ne suis pas spécialiste. Il faudrait se tourner vers Michel Vauvel pour analyser plus finement toutes ces choses.
Mais en tout cas, l'instauration du culte de la déesse raison en tout cas s'inscrit en porte-à-faux des valeurs chrétiennes et religieuses dans une plus large mesure. C'est-à-dire qu'on nie toute référence à la religion à cette époque pour fonder une religion d'État qui tourne autour...
Le culte de la raison n'est pas une religion d'État, mais le culte de la raison est par ailleurs très déchristianisateur. Et ses promoteurs sont athées. Alors qu'avec le culte de l'être suprême, et Robespierre, on a au contraire quelque chose de très différent, comme le nom du culte l'indique, l'être suprême. Il ne faut pas oublier que pour Robespierre, l'athéisme était quelque chose d'aristocratique, et il voyait dans l'athéisme une autre forme de fanatisme aussi dangereuse que le fanatisme catholique. Pour Robespierre, l'idée d'un être suprême que les petits, que les faibles pouvaient peut-être pas invoquer, mais vers lequel ils pouvaient se tourner pour une rétribution de la vertu et une punition du vice, c'était quelque chose d'important.
Est-ce qu'il y a d'autres acquis pour la laïcité que la Révolution française, je dirais, met en avant?
Oui, bien sûr. Déjà, la Révolution française, avec la célèbre déclaration des droits de l'homme, a introduit la liberté d'opinion, donc d'une certaine manière la liberté de conscience. Et puis il ne faut pas oublier que la Révolution a institué l'état civil. Parfois on dit laïciser l'état civil. Non, elle l'a institué. Avant, il n'y avait pas d'état civil. C'était des registres paroissiaux, donc des actes de sépulture, des actes de baptême et des actes de mariage. Donc un état civil est institué. Il y a également le divorce qui est institué. Il sera supprimé ultérieurement par la Restauration, ce qui veut donc dire que le mariage n'est plus considéré comme un sacrement, mais comme un contrat passé entre deux personnes. Donc tout cela fait bien sûr partie de la laïcisation. Il ne faut pas oublier par ailleurs que la Révolution française a également institué ce que l'on appelle la première séparation en 1794, puis 1795. 1794, c'est une sorte de séparation de fait, puisqu'on ne paye plus le culte. Alors le culte constitutionnel, le culte des prêtres qui ont accepté la constitution civile du clergé. On citera entre autres l'exemple du célèbre Henri Grégoire, devenu évêque de Blois. Et puis en 1795, il y a un décret donc de séparation des églises et de l'État, mesure qui est reprise par la Constitution de l'an 3 dans son article 354. Donc il y a effectivement toutes ces formes de laïcité qui sont mises en place. Alors cela dit, les choses sont plus compliquées que cela. Ce que je vous dis est un petit peu schématique parce que séparation ne vaut pas laïcité. Laïcité ne vaut pas séparation. Par exemple, pour un certain nombre d'historiens ou de juristes, alors même, nous n'en avons pas encore parlé, que le concordat est signé entre Rome et la France, la France reste néanmoins un État laïque. Hein. Pour bon nombre d'historiens et de juristes, parmi lesquels je me range, un État concordataire peut être un État laïque. Alors que pour d'autres personnes, il ne peut pas y avoir laïcité sans séparation.
En effet, nous en débattrons d'ailleurs en fin d'émission. En tout cas, pour autant, les acquis laïques de la Révolution française se trouvent en partie remis en cause en 1801. Napoléon signe le concordat avec Pie VII. Ce concordat reconnaît de nouveau la place et le rôle du culte catholique dans l'État, mais en contrepartie, en fait, il garantit également à cet État un droit de regard important sur les affaires de l'Église. Jacqueline Lalouette.
Oui, alors tout d'abord il faut préciser que ce n'est pas seulement avec le culte catholique que l'État signe des accords, puisque la loi du 18 Germinal an 10, qui comprend à la fois la convention signée en 1801 entre Bonaparte et le cardinal Consalvi agissant au nom de Pie VII, et les articles organiques qui ont été ajoutés unilatéralement par Paris et que Rome n'a jamais reconnus, articles organiques qui précisent toutes ces modalités de contrôle de l'État sur l'Église dont vous êtes en train de parler. Mais cette même loi du 18 Germinal an 10 contient également des articles organiques relatifs aux deux cultes protestants, l'Église réformée et l'Église de la confession d'Augsbourg, autrement dit les réformés et les luthériens. Et enfin, il ne faut pas oublier qu'en 1808, il y a un décret qui organise le culte israélite sous l'égide de l'État. Donc ce n'est pas avec un culte que l'État a quelque chose à voir, mais avec quatre cultes.
On sait que les avantages sont à peu près comparables pour les protestants en 1804 et pour les juifs en 1808.
Les protestants, c'était en 1802. Hein, c'est la loi du 18 Germinal an 10. C'est la même loi qui contient la convention entre l'Église et la France, les articles organiques imposés à l'Église catholique et les articles organiques imposés ou offerts aux deux cultes protestants. Alors, vous disiez donc
quels sont les avantages justement accordés aux juifs,
aux protestants et aux catholiques. Donc en 1802-1808, eh bien un des avantages, donc c'est la reconnaissance de l'État, reconnaissance qui se traduit tout d'abord par un traitement. Je précise d'ailleurs que pour les ministres du culte israélite, le traitement n'existera qu'à partir de janvier 1831, au tout début de la monarchie de Juillet. Mais pour les catholiques, pour les ministres du culte catholique et protestant, un traitement et surtout une reconnaissance. À une époque, bien que Portalis, le grand maître d'œuvre, on va dire, de ce concordat, n'ait pas été très explicite à ce sujet, les cultes non reconnus vont se trouver tout au long du XIXe siècle, nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler, dans une position très délicate. parce que il y a des articles du code pénal, puis ultérieurement différentes lois ou décrets qui vont mettre les fidèles, les membres des cultes non reconnus dans des positions extrêmement difficiles par rapport à la justice. Donc le simple fait d'être reconnu est déjà en soi important dans un pays où les libertés publiques ne sont quand même pas développées et où il n'est pas facile, où il n'est pas permis de se réunir et de s'associer, même pour célébrer ensemble son culte. Donc cette reconnaissance, cette organisation sous l'égide de l'État, on devrait dire cet établissement sous l'égide de l'État, en soi est quelque chose de très important.
On marque une courte pause.
Canal Académie.
Chaque semaine, l'Académie des sciences morales et politiques ouvre ses portes à un conférencier. Cette année, l'Académie répond à la question « Faut-il faire confiance aux historiens ?» Quelques exemples de communication, « Les historiens et la légende noire du Second Empire », Sacha Guitry et les historiens, « Peut-on faire confiance aux historiens de la médecine ?» Les archives nationales. Canal Académie vous propose de découvrir les grands sujets traités en séance. Plusieurs fois par jour, retrouvez l'intégralité des séances de l'Académie des sciences morales et politiques en écoutant Canal Académie. On retrouve Jessica Baudet.
Suite de notre émission éclairage consacrée aujourd'hui à l'histoire de la loi 1905 sur la laïcité en France, en compagnie de Jacqueline Lallouette, historienne spécialiste des questions religieuses et politiques au 19e siècle en France. Alors nous parlions à l'instant justement du concordat de 1801, de ce qui avait été également accordé aux juifs comme aux protestants par la suite. Finalement, sous le Second Empire, c'est-à-dire sous Napoléon III, la place de l'Église dans la société française est de nouveau sévèrement remise en cause. On voit par exemple émerger un courant de catholiques républicains fortement anticléricaux. On les appelle justement les chrétiens bleus. Ils sont opposés à ce que l'Église intervienne dans le domaine public. Comment justement ce courant voit-il le jour? Et surtout, quelle est l'attitude de l'Église catholique à l'égard de ce courant progressiste qui naît quand même en son sein?
Alors, la formation d'un courant catholique ayant une coloration anticléricale peut être repérée avant même le Second Empire, notamment pendant la Seconde République en 1848 avec un homme qui s'appelle Arnaud de l'Ariège. Les affaires sous le Second Empire sont assez compliquées. Parce que tout d'abord, de 1852, on va même remonter un petit peu en amont, on va partir de la fin de la Seconde République avec le coup d'État de 1851. Bon, le Second Empire est proclamé en 1852. Donc de 1852 à 1859, on va dire que le Second Empire et l'Église catholique marchent plutôt la main dans la main, si on peut utiliser cette image. L'Église s'étant, pour des raisons diverses, ralliée au coup d'État du 2 décembre et à l'Empire. Ce qui va remettre cette sorte d'alliance en cause, c'est la politique italienne de Napoléon III, décidant d'aider le royaume de Piémont-Sardaigne avec Victor Emmanuel et Cavour, donc à réaliser l'unité de la péninsule autour du royaume de Piémont-Sardaigne lui-même. Alors, par ailleurs, effectivement, il y a un courant républicain qui se développe durant les années 1860, et parmi ces républicains, on trouve des catholiques qui se rallient à l'idée de séparation des églises et de l'État, qui, elle, fait son petit bonhomme de chemin, si je peux me permettre cette expression un peu familière, depuis la Restauration et même depuis plus haut, parce que il y a des courants de pensée, des familles politiques, comme l'on dit de nos jours, qui n'avaient pas accepté l'idée du concordat. Donc, il y a un grossissement de ce courant séparatiste, et parmi les gens qui se rallient à cette idée, effectivement, on trouve des catholiques anticléricaux au sens strict du terme, c'est-à-dire séparation du spirituel et du temporel. Il y a Arnaud de l'Ariège, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. On pourrait citer d'autres figures moins connues, comme celle par exemple d'Alexandre de Metz Noblat. Mais parmi les républicains qui sont les plus favorables à la séparation des églises et de l'État, ou de l'église et de l'État, parce qu'à l'époque on dit encore facilement de l'église, sous-entendu catholique, et de l'État, donc parmi les républicains les plus fortement partisans de cette séparation, on trouve des gens qui n'ont plus rien de catholique, même s'ils l'ont été dans leur enfance et leur jeunesse. On peut penser par exemple à deux grandes figures de la Troisième République, Gambetta et puis Jules Ferry, qui, lors des élections de la campagne pour les législatives en 1869, mettent la séparation dans leur programme électoral.
En tout cas, plusieurs philosophes français sont aussi de fervents défenseurs de la laïcité au cours du XIXe siècle. Étienne Vacherot, qui publie par exemple en 1860 son livre « La démocratie », il y condamne la religion qui, selon lui, engendre l'intolérance, l'autorité et l'immobilisme. Et puis 10 ans après, ces mêmes mots d'ordre en fait sont repris par Charles Renouvier dans sa revue « La critique philosophique ». Et là, le philosophe prône la suprématie morale de l'État et son entière autonomie politique. Donc tout d'un coup, la laïcité n'est plus seulement une idée isolée, elle fait aussi partie intégrante d'un système de pensée. Je crois que ça, c'est quand même quelque chose d'assez essentiel. Est-ce que les législateurs tiennent compte justement de cet apport historique dans la rédaction de la loi 1905, Jacqueline Lalouette ?
Alors, je vais revenir, si vous le permettez,
bien sûr,
sur ces philosophes dont vous avez parlé. À ces deux philosophes, on pourrait, au nom de ces deux philosophes, on pourrait ajouter d'autres noms.
Bien sûr.
Ceux de Jules Simon, ceux de Jules Barni. Vous avez parlé de la démocratie de Vacherot. Je signale au passage que ce livre lui a valu une peine d'emprisonnement de 3 mois de prison ferme et une amende.
C'est important de souligner.
À propos,
oui,
de certains passages. Et il est encore plus dur, effectivement, dans le second volume que vous avez. Je ne sais pas si vous avez signalé la religion.
La démocratie.
Dix ans plus tard, vous avez signalé Charles Renouvier, effectivement. Mais 10 ans plus tard, Vacherot publie un deuxième ouvrage qui s'appelle la religion, dans lequel il répudie vraiment tout ce qui est forme d'accord et d'entente entre l'Église et l'État. Alors, est-ce que le législateur a tenu compte de ce qu'ont pu écrire des hommes comme Simon, Barni, Vacherot, Renouvier, Quinet, on pourrait en citer bien d'autres? Eh bien, figurez-vous que c'est une question que je me pose. Parce que il y a eu, à la fin du Second Empire, nous n'avons pas encore cité leur nom, il y a eu à la fin du Second Empire, en 66 et 69, deux projets de séparation qui ont été publiés. Alors, des projets dans un sens qui n'a absolument rien de parlementaire, sont des livres qui ont été publiés sous le titre de « La séparation du spirituel et du temporel » ou « La séparation des églises et de l'État ». Et à l'intérieur, ce sont de vrais projets qui sont présentés. L'un des auteurs s'appelle André Saturnin Morin, dit Miron de son pseudonyme. L'autre, Ernest Henley, qui est israélite de confession, d'origine du moins, qui deviendra plus tard préfet sous la Troisième République, sont de fervents partisans de la séparation et écrivent de véritables projets. Plus tard, dans les années 80 et 90, on aura un certain nombre de propositions de loi sur la séparation des Églises et de l'État. Et précisément, je me demande si ces auteurs des propositions des années 80 et 90, et puis si plus tard, les auteurs des propositions déposées en 1901, 1902, 1903, et si les membres qui appartenaient à la commission, et si les gens qui ont le plus parlé au Parlement pour l'élaboration finale de la loi de séparation, je me demande si ces gens s'étaient tous lus les uns les autres, parce que dans les textes des uns et des autres, on trouve des formules, des expressions, des passages qui paraissent annonciateurs de certains articles de la loi terminale. Mais ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre.
On se retrouve dans quelques instants.
Vous écoutez Canal Académie.
Jessica Baudet.
Retour de l'émission Éclairage consacrée à l'histoire de la loi 1905 sur la laïcité. Nous sommes toujours en compagnie de l'historienne Jacqueline Lalouette qui vient de publier un ouvrage fort intéressant, La séparation des églises et de l'État, genèse et développement d'une idée 1789-1905 aux éditions du Seuil. Alors, nous parlions à l'instant des philosophes qui avaient apporté leur pierre à la réflexion sur la laïcité, réflexion à propos de laquelle d'ailleurs on se posait la question de savoir si finalement leur apport avait été majeur dans la rédaction de la loi 1905. Par contre, un autre ouvrage me semble tout à fait intéressant, c'est l'ouvrage de Charles Darwin. Parce que Darwin publie en effet l'évolution des espèces en 1862.
C'est la traduction française, je crois.
C'est la traduction française,
oui,
en tout cas,
qui
est connue du grand public. Et là, tout d'un coup, finalement, les thèses de Darwin vont remettre considérablement en cause les théories officielles de l'Église, en tout cas sur l'apparition de l'homme sur Terre, puisque lui va livrer, d'une certaine manière, une explication scientifique, rationnelle. Quelle est la réponse ? Alors, d'abord, est-ce que ce livre a eu un impact important dans les mentalités de l'époque ?
Alors, déjà, il faut préciser que la traduction française de Darwin d'Origine des espèces, a été faite par une femme qui s'appelait Clémence Royer, qui a fait précéder la traduction d'une assez longue préface. Que cette dame, Clémence Royer, était très anticléricale et que par sa préface, peut-être par sa traduction elle-même, elle a eu tendance à gauchir, à dévier un petit peu les thèses de Darwin qui, lui, n'avait pas voulu faire un ouvrage à caractère anti-religieux et que Clémence Royer, donc, a donné d'elle-même ce caractère anti-religieux qui a déplu à Darwin. D'ailleurs, il y a une brouille après qui est arrivée entre Darwin et sa traductrice. Alors, tout ce qui concerne par ailleurs l'histoire du monde, l'histoire de l'homme, avait déjà été, avant Darwin, battu en brèche et était très débattu par un certain nombre de découvertes de préhistoriens et de géologues. Le problème est de savoir si ces thèses scientifiques nouvelles, qui n'étaient d'ailleurs pas admises par tous dans les milieux scientifiques eux-mêmes, ont eu un écho suffisamment large pour troubler les consciences, pour troubler les esprits. Je pense que ces écrits, que ces nouvelles idées, que ces nouvelles thèses ne touchaient quand même qu'une part très minime, très minoritaire de la population. Alors, vous avez parlé, j'aurais dû réagir plus tôt sur ce problème lexicologique. Vous avez parlé précisément à propos de Vacherot, de Renouvier,
oui.
Maintenant à propos
de
Darwin, de laïcité. Alors, de toute façon, c'est quelque chose qui s'exercerait sur des registres et des plans extrêmement divers, mais je précise quand même que le mot de laïcité au sens où nous l'utilisons maintenant,
c'est
n'existe pas.
Oui.
Donc c'est un usage, on va dire, rétroactif, puisqu'il faut rappeler qu'à l'origine, le mot laïque, écrit avec un C, est tout simplement, dans la société, celui qui n'est pas clair, celui qui n'a pas reçu les ordres, celui qui ne s'est pas fait frère. Donc, c'est très progressivement, dans le courant du XIXe siècle, que le mot de laïcité prendra et se formera et prendra le sens donc qu'on lui connaît. Et en 1911, un homme comme Ferdinand Buisson, qui a été longtemps le collaborateur direct de Jules Ferry au ministère de l'Instruction publique, disait donc en 1911 que le mot de laïcité était encore un mot nouveau auquel les oreilles des Français n'étaient guère habituées. Donc vous voyez, il ne faudrait pas qu'il y ait une confusion, il ne faudrait pas qu'on pense que Vachereau faisait de la laïcité, que la traductrice de Larouin faisait de la laïcité. On ne s'exprimait pas en ces termes-là à l'époque.
Non, mais c'est vrai que les idées développées à l'époque, et ne serait-ce que le livre de Darwin, est quand même quelque chose de fondamental par rapport à l'évolution des mentalités. Et quand tout d'un coup...
Mais je pense que cette évolution des mentalités liée aux thèses darwiniennes ou liée à toutes les découvertes préhistoriques ne s'est fait sentir que vraiment très 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 lentement et a eu ses échos prolongés et plus approfondis, beaucoup plus au XXe siècle que dans la deuxième moitié du XIXe.
Il faut du temps pour faire aboutir les grandes idées. En tout cas, autour, on peut dire sous la Troisième République, l'école devient un enjeu majeur pour les partisans de la laïcité, notamment les républicains. Pourquoi, Jacqueline Lalouette? Quelle est la situation de l'école à l'époque en France?
Alors, la situation de l'école est quelque chose d'assez compliqué, parce que il ne faut pas oublier que Napoléon avait institué ce que l'on appelle le monopole de l'université. L'université n'étant pas ici l'université au sens où nous l'entendons, université de Lyon, de Toulouse, de Marseille, de Paris 1, 13, 10, enfin tout ce que vous voulez, c'est l'administration en quelque sorte qui coiffe tout ce qui a trait aux choses de l'école, on va dire, du plus bas au plus haut, bas et haut, désignant l'âge des personnes enseignées et non pas une quelconque hiérarchie. Et puis, ce monopole universitaire a progressivement été battu en brèche par la loi Guizot en 1833 pour le primaire, par la loi Falloux en 1850 pour le secondaire et le sera ultérieurement en 1875 pour supérieur. Où donc là, on peut avoir effectivement une irruption, entre guillemets, du privé dans un domaine qui relevait du monopole universitaire. Alors là où les choses se compliquent, c'est que même quand on reste dans le public, les personnalités ecclésiastiques ont leur place. Pourquoi ? Si je prends l'exemple des écoles primaires, eh bien, les communes pouvait très bien, et même le faisait très souvent, conclure un contrat avec une congrégation religieuse masculine ou féminine, et les enseignants et les enseignantes qui prenaient en charge la scolarité des enfants dans ces écoles communales publiques n'étaient pas des laïcs au sens de non-clairs, mais étaient des frères, des sœurs, des religieux, des religieuses appartenant à telle ou telle congrégation. Alors, parmi les congrégations enseignantes très célèbres, on peut citer les frères des écoles chrétiennes pour les garçons et les filles de la charité pour les filles. Donc, vous voyez, on a des personnes qui appartiennent à l'Église, mais qui enseignent dans des écoles communales publiques. Donc,
oui, les choses ne sont pas simples.
Les choses ne sont pas simples, et on imagine mal cela de nos jours à cause de l'image que l'on a maintenant, depuis un certain nombre de grandes manifestations et autres, d'une partition publique-privée très très forte. Et précisément, quand on parle de la laïcité de l'école, on pense essentiellement à la loi de 1882, alors que Jules Ferry était ministre de l'Instruction publique, cette fameuse loi du 29 mars 1882, qui rend, dit-on, l'école laïque et obligatoire. Mais il faut rappeler que le terme de laïque ne figure absolument pas dans la loi. Et que si cette école devient laïque, c'est uniquement sous l'angle des programmes, parce que cette loi de 1882 substitue à un article de la loi Falloux qui prévoyait un enseignement moral et religieux, ou religieux et moral, je ne sais plus très bien dans quel ordre sont les adjectifs, donc substitue dès son article premier un enseignement moral et civique. Donc le moral est commun aux deux lois, mais le religieux s'en va et est remplacé par le civique. Et le civique est important puisqu'il s'agit d'éduquer les petits Français à des valeurs républicaines, de leur faire connaître leur pays, les structures de leur pays, le mode d'organisation de leur pays et de leur faire aimer la République. Et l'on n'oublie pas qu'en 1848, la Seconde République qui avait instauré le suffrage universel avait vu ce suffrage universel se retourner contre lui avec le plébiscite faisant suite à ce coup d'État du 2 décembre 1851 dont il était question tout à l'heure. Donc là, il faut éduquer les petits Français à la République, et dans un pays, on estime à juste titre que dans un pays de suffrage universel, eh bien, tout le monde doit être parvenu à un certain degré d'enseignement. Il faut d'ailleurs préciser à ce sujet que lorsque cette loi de 1882 est votée, contrairement à une idée qui règne encore dans certains esprits, l'analphabétisme est très largement vaincu. Un très très grand nombre de garçons savent lire et écrire, c'est moins vrai pour les filles, mais Jules Ferry entérine plus une situation de fait qu'il ne crée. Jules Ferry n'est pas Charlemagne, autrement dit. Mmh. Voilà, et Charlemagne n'était peut-être pas Charlemagne d'ailleurs. Alors, j'allais ajouter que si il y a cette laïcité des programmes ou cette laïcisation des programmes avec la loi de 1882, on aura ensuite une autre loi qui est beaucoup moins connue, du 30 octobre 1886, alors que le ministre de l'Instruction publique est un homme qui s'appelle René Goblet, qui laïcise précisément le personnel enseignant. Et à partir de cette loi 1886, avec toutes sortes d'aménagements, de délais laissés, les délais n'étant pas les mêmes pour les hommes et pour les femmes, etc., eh bien, dorénavant, on ne peut plus avoir de personnel congréganiste à l'intérieur des écoles primaires.
Alors en tout cas, à cette époque, parallèlement, s'impose progressivement dans le domaine public la suppression des références les plus explicites aux religions. Alors je vais citer les emblèmes de la religion catholique, la suppression des prières à l'ouverture des sessions parlementaires.
En 1884.
Voilà. Oui. Et puis les questions également, je ne cite que des exemples, d'enlever les croix dans les hôpitaux.
Alors, les croix ou les crucifix, hein,
les crucifix,
ou
les, oui,
croix
fait.
Ou crucifix, les
oui,
deux,
oui,
il y avait
oui,
parfois de simples croix, parfois des crucifix, c'est-à-dire le corps du Christ sur la croix en plus. On peut citer éventuellement, surtout dans les écoles de filles, des statues de la Vierge. Alors, ces symboles ont été enlevés dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les tribunaux. Dans les hôpitaux, puisque c'est le cas que vous me citez, à ma connaissance, hein, ils avaient été retirés dans les hôpitaux de Paris sous la Commune, puis ils ont été remis. Ils ont été retirés des hôpitaux parisiens avec la grande politique de laïcisation lancée à partir de 1878-1879 par un médecin qui se trouvait être un des principaux disciples du professeur Charcot. Ce docteur s'appelait Bourneville.
Avec qui Freud a travaillé.
Pardon ?
Pour le professeur Charcot, je disais avec qui Freud a travaillé.
Oui, c'est cela. Et donc, Bourneville a laïcisé les hôpitaux parisiens. Effectivement, là, on a retiré les symboles religieux. Pour les autres hôpitaux, ailleurs, en France, je crois savoir que les choses se sont faites au cas par cas, en même temps que se faisait la laïcisation du personnel, la laïcisation des noms de salles. Je suis d'ailleurs étonnée que certains, c'est étonnant que certains hôpitaux parisiens qui ont été laïcisés comme tous les autres du temps de Bourneville ou parfois un petit peu après, aient conservé leurs noms religieux comme Saint-Louis, Saint-Antoine, Hôtel-Dieu, ce qui n'avait pas été cas, je crois, sous la Commune, mais je ne suis pas ou sous la Révolution, mais je ne suis pas certaine. Pour les écoles, les choses sont complexes et se passent par des circulaires successives. Dans la rédaction desquelles les ministres sont très prudents parce que l'on redoute beaucoup, notamment dans certaines régions, les réactions des populations. Et effectivement, il y a des départements ou des régions où les réactions sont très 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 dures. Et l'instituteur qui s'est risqué à enlever le crucifix se voit parfois fort maltraité par la population, projectile contre les portes de son domicile, contre les fenêtres, et parfois on voit les populations qui reviennent mettre le crucifix en place. Bon, c'est un peu compliqué. En 1906, donc c'est-à-dire un an après la loi de séparation, tous les crucifix ne seront pas encore retirés. Et enfin, les tribunaux. Alors là, dans les tribunaux, les crucifix ou les tableaux à sujet religieux ont été retiré en 1904 et la circulaire a été signée ou de la veille ou du jour même du Vendredi Saint de l'année 1904, ce qui par les catholiques a été vécu comme quelque chose de particulièrement sacrilège d'une part, agressif d'autre part.
On se retrouve après la pause musicale.
Vous écoutez Canal Académie. Canal Académie.
Nous parlions à l'instant avec Jacqueline Lalouette, notre invitée d'aujourd'hui, de la disparition des emblèmes religieux dans les lieux publics et également des réactions que cette disparition avait peut-être entraînées dans les milieux catholiques. Finalement, la France va être 10 ans plus tard amenée à un tournant, je dirais, de son histoire avec la papauté, puisque le pape Léon XIII invite ouvertement les milieux catholiques à se rallier à la République. Pour autant, on sait que le pape est profondément hostile aux idées laïques françaises. Alors, n'est-ce pas un moyen, Jacqueline Lalouette, pour le pape de constituer dans l'État républicain un noyau catholique susceptible de s'opposer à ce grand mouvement de laïcisation?
Bon, vous avez raison de présenter les choses comme ça. Léon XIII, effectivement, tout d'abord par l'entremise du cardinal Lavigerie en 1890, puis de lui-même par son encyclique au milieu des sollicitudes de février 1892, invite les catholiques à se rallier à la République. Les mauvaises langues disent qu'il l'a fait une fois que la boulanger ayant définitivement échoué, les bonapartistes, les monarchistes ayant échoué en jetant leur dernière carte. Maintenant, il n'y a plus d'autre issue que de se rallier à la République. Bon, il faut quand même rappeler que l'enseignement traditionnel de l'Église est que, depuis Saint Paul, que tout pouvoir vient de Dieu et bien que sûr. L'Église ne tient pas à telle ou telle forme de gouvernement ou à telle ou telle forme d'État. Mais vous avez tout à fait raison de dire que Léon XIII, par ailleurs, distingue ce qui est la forme du régime et ce qui relève de la législation qui est votée par la tendance majoritaire à l'intérieur de ce régime qui se trouve être la République en France. Donc, se rallier à la République, mais ne pas accepter n'importe quelle loi de la République, et effectivement, Léon XIII n'est pas plus laïque que ne l'était son prédécesseur et que ne le sera son successeur, ça c'est sûr. Il faut ajouter encore, pour parler de ce ralliement, que vos auditeurs le savent sans doute, bon nombre de catholiques ont refusé de marcher à la suite de Léon XIII sur ce chemin-là, mais bon nombre de républicains radicaux également. C'est-à-dire, les radicaux, pour certains d'entre eux, pensaient que tout ça n'était pas hypocrisie et que l'Église voulait effectivement introduire un cheval de Troie dans la République. D'autres craignaient une Église devenue républicaine parce que, comme disaient certains, la guerre pour nous est mieux que la paix. Nous pouvons plus facilement détruire l'Église, nous lancer à l'assaut contre elle si elle est notre ennemi que si elle est notre ami. Voilà.
Alors en tout cas, un an près, c'est aussi le début de l'affaire Dreyfus.
Alors l'affaire Dreyfus, elle est de 94, donc oui. Deux années près par rapport à l'encyclique. Dont
elle se finira en 99 d'ailleurs, je crois.
Oui, enfin avec des suites encore qui se... pour la grâce et tout... la réintégration du capitaine Dreyfus. Bon, elle éclate vraiment cette affaire Dreyfus... Vous savez qu'en 94, quand le capitaine est condamné au mois de décembre, il n'y a pas grand monde, hormis sa famille, qui croit à son innocence. Oui. Hein, c'est très progressivement que les choses vont cheminer, s'accentuer en 96. Et puis
beaucoup
surtout,
grâce à Jean Jaurès, d'ailleurs.
Oui, enfin, il est tardif. Jean Jaurès, comme les socialistes, il arrive très tardivement dans l'histoire. Hein. Il y a Zola en janvier 98, et puis après effectivement Jean Jaurès et d'autres socialistes se rallient. Certains socialistes resteront toujours un peu dans les marges de cette affaire. Non, il y a un grand politique, enfin qui est maintenant bien oublié, auquel il faut rendre justice dans cette affaire, c'est le sénateur Auguste Scheurer-Kestner qui a vraiment attiré l'attention sur cette affaire. Alors je présume que si vous me parlez de l'affaire Dreyfus...
Voilà, c'est pour dire surtout que ça cristallise tout de même les tensions entre catholiques et républicains de nouveau. Alors par Jacqueline Lalouette.
Oui, alors là encore, les choses sont complexes parce que, bon, on a beaucoup incriminé le comportement des catholiques dans cette affaire en disant que tous les catholiques étaient, que l'Église était anti-Dreyfusarde ou que tous les catholiques étaient anti-Dreyfusarde.
Et favorable aux thèses de Drummond.
Bon, et favorable aux thèses de Drummond, le grand antisémite. Bon, alors d'abord, en matière d'antisémitisme, il faut rappeler et toujours rappeler qu'avant d'avoir été de droite, l'antisémitisme a été de gauche. On pourrait citer Toussnel, les juifs rois de l'époque. Alors, dire que tous les catholiques sont antisémites et anti-Dreyfusards, certainement pas. C'est rapide. Si on prend le monument Henri, c'est-à-dire cet ensemble de souscriptions faites par des gens qui voulaient aider la veuve du colonel Henri qui s'était suicidé au Mont Valérien, on se rend compte qu'il y a assez peu d'envois d'ecclésiastiques. On dit que Léon XIII disait en privé qu'il croyait à l'innocence du capitaine Dreyfus. Du côté de l'épiscopat, on lui a beaucoup plutôt reproché son silence que ses positions anti-Dreyfusardes.
Oui, mais ça, pardonnez-moi, ça a quand même le mérite, enfin, à nouveau, de relancer les débats, en tout cas l'opposition entre républicains et catholiques.
J'allais ajouter que malgré tout, même s'il y a des catholiques qui font partie du comité catholique pour la défense du droit, c'est sûr que le gros problème des catholiques, à l'époque, pour cette affaire Dreyfus, c'est la croix et les assomptionnistes. Les assomptionnistes, là qui posent problème, effectivement, qui posent même un gros problème. Alors toutes les autres affaires autour du père du lac, tout ça, ça fait partie de l'anti-jésuitisme traditionnel dans la France du 19e siècle. Ce sont des choses assez complexes et il faudrait vraiment décortiquer ça sous un microscope pour être sûr de dire les choses les plus justes possibles. Mais de toute façon, d'une manière fondée ou d'une manière infondée, ce qui est sûr, c'est que l'expérience du ralliement qui avait été lancée donc en 90-92, qui avait été relayée par un certain nombre de républicains en 1894 par ce qu'on appelle l'esprit nouveau. expression lancée à la Chambre des députés en mars 1994 par Spuller, ancien ami de Gambetta qui lui est mort depuis longtemps à l'époque. Donc l'affaire Dreyfus met fin à cette parenthèse, à cette sorte d'embellie qui aurait débouché sur on ne sait quoi s'il n'y avait pas eu l'affaire Dreyfus effectivement. Là, tout est relancé et la guerre part de plus belle effectivement.
En tout cas, vous parliez à l'instant des assomptionnistes. En tout cas, les républicains comprennent qu'ils peuvent jouer un rôle politique majeur. On sait qu'ils se sont exprimés et ont pris position dans les colonnes du journal La Croix. Justement, est-ce que vous pensez que... Alors, comment justement le gouvernement de Valdec-Rousseau va régler le problème de ces congrégations?
Alors, effectivement, c'est le problème du droit de s'associer en France était pendant depuis très 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 longtemps. Ça faisait partie de ces fameuses questions liées aux libertés publiques dont il était question au début de l'émission. Il était très difficile de s'associer en France et on ne pouvait pas le faire sans une autorisation au-delà. Enfin, pour les réunions, c'était 20 personnes et toute association devait avoir une autorisation. Ce problème de l'association qui avait été réglé pour les syndicats en 84 reste pendante pendant longtemps précisément à cause des congrégations. C'est Valdec-Rousseau qui réglera la question par la célèbre loi sur les associations du 1er juillet 1901. Et cette loi du 1er juillet 1901 contient un titre 3 qui stipule que les associations que les congrégations ne sont pas des associations, et alors que on peut s'associer, on ne peut plus librement, il n'est même pas nécessaire de se déclarer pour s'associer, les congrégations, elles, sont placées dans un droit exorbitant par rapport aux associations et ne peuvent exister qu'avec une autorisation. Alors, il faut préciser que les congrégations, ce sont des religieux, des religieuses, que pour ce qui relève des associations catholiques, de laïques, elles peuvent se former librement comme toutes les autres associations. Donc, 1er juillet 1901, titre 3, qui met les congrégations hors du régime commun. On ne sait pas comment ce titre 3 aurait été appliqué si Valdec-Rousseau était resté à la tête du gouvernement. En 1902, il quitte, il recommande Émile Combes pour lui succéder, et on sait qu'Émile Combes appliquera ce titre 3 de la loi du 1er juillet 1901 d'une manière absolument drastique, obligeant de nombreuses congrégations à se dissoudre et, c'est encore quelque chose d'assez complexe, faisant fermer des écoles, c'est-à-dire des établissements congréganistes, la maison mère étant autorisée, mais chacun des établissements ne l'étant pas. Et une loi de 1825 exigeait, chaque établissement a demandé aussi l'autorisation. Et Combes, sans pitié, il fait fermer les établissements non autorisés des congrégations autorisées. D'où les multiples écoles fermées, les frères, les sœurs religieux, religieuses obligées ou de s'exiler, ou de se séculariser, sont des affaires assez complexes.
Alors avant, très brièvement, mais avant d'entamer la discussion de cette loi sur la laïcité en 1905...
Sur la séparation.
Sur la séparation, donc qui est le principe, hein, la laïcité étant le principe de séparation des églises et de l'État.
On ne peut pas dire les choses comme ça. On ne peut pas dire les choses comme ça. Laïcité et séparation ne vont pas de pair. Quand vous dites les choses comme ça, ça veut dire que vous partez du principe qu'un État concordataire ne peut pas être laïque.
Je voulais juste évoquer, on va être obligé de le faire très rapidement, l'incident diplomatique entre la papauté et la France, puisque les relations entre c'est pas le Vatican d'ailleurs à l'époque, vont être interrompues à partir de 1904. Est-ce que vous pensez que cet incident précipite justement le débat sur la laïcité en France?
Jacqueline Lalouette. Pour ma part, je pense que les affaires diplomatiques survenues en 1904 ont effectivement joué un rôle absolument fondamental. pour diverses raisons, mais entre autres parce que, bon là encore c'est technique, la note envoyée par le cardinal Méry Delval à toutes les chancelleries étrangères en 1904, qui contient une phrase différente de la note qui avait été remise à la France, a été contraire à tous les usages diplomatiques de l'époque et a vraiment froissé toutes les consciences françaises, y compris des gens de droite. Et ça me semble très important.
On termine cette émission par une dernière question. Quels sont les apports majeurs, justement, de cette loi, selon vous ? Qu'est-ce qui vous semble, justement, nécessaire et surtout intouchable au regard des nouveaux enjeux de notre société ? Est-ce que la laïcité en France a de beaux jours devant elle ? Jacqueline Lamouette.
Alors, l'apport essentiel de cette loi, c'est bien sûr son article premier que je vais lire. La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après, dans l'intérêt de l'ordre public. Liberté de conscience, libre exercice des cultes. C'est la première... Enfin, non, d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que cela est affirmé dans un texte français, puisque les chartes et les constitutions qui se sont succédées tout au long du XIXe siècle proclamaient la liberté religieuse, la liberté des cultes. Mais il n'y avait pas de contrôle de constitutionnalité des lois, et ces grands principes appliqués, affirmés dans les chartes et les constitutions étaient constamment violés et battus en brèche. Donc là, pour la première fois, on a une loi qui va faire en sorte que ces deux grands principe de liberté de conscience et de libre exercice des cultes qui avait été très largement débattu et discuté tout au long du XIXe siècle, qui avait été maintes et maintes fois transgressés, vont être enfin respectés. Et l'idée d'Aristide Briand et de plusieurs de ses collaborateurs est que ce principe de liberté de conscience et des cultes inscrit dans l'article 1er devait donner le ton de la loi, devait donner le ton philosophique et idéologique de la loi, et que lorsqu'il y aurait une incertitude, eh bien il faudrait toujours trancher en faveur de cette tonalité de liberté donnée dans l'article 1er de la loi. À part cela, la loi, c'est en grande partie une question d'organisation des cultes, ce qui peut se passer, car contrairement à ce qu'on dit, avec la loi de séparation, l'État n'ignore pas les cultes. Il n'intervient plus dans leur organisation, mais il suffit de regarder un certain nombre d'articles, qu'il s'agisse des associations, qu'il s'agisse du titre 5 sur la police des cultes, pour voir que l'État continue de se préoccuper des cultes ô combien.
Merci à Jacqueline Lalouette d'avoir participé à cette émission consacrée à l'histoire de la loi 1905, émission au cours de laquelle elle nous a apporté son précieux soutien. Et pour les auditeurs qui veulent en savoir, et pour aux auditeurs qui veulent en savoir plus, je vous recommande vivement la lecture de son livre « La séparation des églises et de l'État, genèse et développement d'une idée 1789-1905 » publié ce mois-ci aux éditions du Seuil, un livre passionnant qui a le mérite de relater avec beaucoup d'exactitude cette fabuleuse épopée législative.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.